Bienvenue à la French Connection, épisode 149. Cette semaine, cette journée de beau temps, je suis avec Steve.
Bonjour à tous et à toutes.
Et je crois que les autres ont profité de cette belle journée pour aller se faire dorer dehors et de non respecter la distanciation sociale. En tout cas, visuellement, c'est ce que je vois. Et par ailleurs, on va aller avec les chaînes de l'espoir qui, justement, dans ce sens-là, il y a encore le COVID. Malgré les annonces de déconfinement qui s'en viennent, on est encore dans un contexte de confinement et de distanciation sociale. Donc, s'il vous plaît, respectez ces règles-là, même s'il fait beau. Je crois qu'on est quand même un territoire assez grand pour profiter du soleil sans se coller un sur les autres. Donc, essayez d'éviter cette propagation et de renverser la volonté de déconfinement puisque les chiffres vont monter magiquement après, puis ça serait malheureux. D'ailleurs, asile au travail, ça, j'en fais référence. D'ailleurs, on va en parler plus tard dans les nouvelles. Steve a trouvé deux nouvelles très intéressantes dans ce contexte-là, que les gens en TI sont, les gens en sécurité sont rebalancés en TI, ce qui peut pas causer des problèmes. Sinon, il y a le weekly du Hackfest qui permet aux gens de changer, de voir des visages humains un peu en dehors d'un contexte de travail, dans un contexte plus d'amusement et plus désinvolte, ce qui est super bon pour le moral. Sinon, il y a toujours le Slack du Hackfest. Il y a différents canaux qui sont disponibles, dont un pour la santé mentale, pour les gens qui vivent un contexte d'angoisse et d'anxiété associé à la distanciation. Sinon, ben, restez à la maison dans la mesure où vous êtes capable. Sinon, évitez de côtoyer les autres. Il devrait y avoir des annonces d'une semaine numérique virtuelle, j'imagine bientôt, là, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Même si je suis dans l'organisation, j'ai pas plus de cue qu'il va en avoir une prochainement. Donc, Steve devrait nous faire une présentation de suite dans le fond de la présentation qui a été au Hackfest. Donc, commençons avec les nouvelles. Microsoft avertit que certains malwares peuvent être poussés dans des films piratés. Et by the way, je suis zéro surpris, mais c'est bien peut-être de se faire un petit rappel là-dessus.
Oui, parce que les gens, je crois, qui ont trouvé le temps et le moyen et surtout les ressources pour aller chercher les petits films pour se sauver quelques dollars de location, pour pas dire d'abonnement vers des Netflix de ce monde. Et donc, les pirates en ont profité aussi. Ils savent que la manne, elle est là. L'attention des gens est là, pour être capable à ce moment-là d'infecter ces films et permettre de s'insérer dans les réseaux domestiques. Encore une fois, c'est assez simple, c'est pour aller chercher de l'information, pour être capable de faire du vol d'identité, pour être capable d'aller chercher de l'information financière et s'en servir, encore une fois, pour des comptes de banque, pour se faire encore de quelques dollars. Je tiens à préciser aussi, puis tu seras d'accord, je crois, avec moi, Nick, là-dessus, dans bien des pays, il y a des gens qui n'ont pas eu de PCU, autrement dit, qui n'ont pas de soutien de l'État pour ce temps de pandémie qui restreint tout le monde à travailler. Donc, ils se virent à la technologie et ils sont assez créatifs. Il y a des gens intelligents aussi partout dans le monde. Donc, ils se trouvent à créer justement des situations, pas des situations, mais plutôt des moyens pour être capable de profiter de la situation et aller à ce moment-là exploiter ceux et celles qui s'en doutent le moins. On est pas mal naïfs, on est réputé pour ça. Et de cette manière-là, avec les distractions, peu importe lesquelles qu'ils sont, que ce soit une injection de code malicieux dans un logiciel qui après ça il est distribué dans Google Play Store, dans le App Store, c'est comme ça qu'ils vont aller gagner l'accès à ces gens-là qui s'en méfient de moins en moins. Ça peut se transposer aussi, comme on sait, avec les appels frauduleux qui sont toujours omniprésents, se faisant passer pour des gens du gouvernement, de n'importe quelle organisation, encore là, pour aller atteindre l'information des gens.
Effectivement, de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Là, ça, c'est un cas vraiment concret qui est spécifique par rapport à ça. Et encore qui est un leurre pour les gens, mais tu sais, je veux dire, ça fait une éternité que ça est malheureusement présent. C'est juste un malheureux rappel que ça existe encore. Puis les gens sont plus, comme tu mentionnes, propices à ce genre de choses.
Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que c'est en VBScript. Moi, ça m'a surpris de voir ça. Là. VBScript, ça marche encore.
Je ris.
Preuve encore que la vieille technologie, il ne faut pas s'en départir puis de l'oublier. C'est toujours présent. C'est ça qui est le fun.
Effectivement. D'ailleurs, les outils plus modernes d'anti-malware vont intercepter ce genre de choses-là plus facilement. Puis malheureusement, ces outils-là sont peu ou pas présents sur les ordinateurs domestiques, donc sont des cibles très propices à ce genre de choses-là. Puis dans ce fond, ça est un exemple, j'imagine, comme plusieurs autres, où les malveillants ont arrêté de s'attaquer peut-être au réseau d'entreprise, vont s'attaquer au réseau domestique, parce que maintenant, tout le monde est à la maison. Les ordinateurs domestiques deviennent, dans certains cas, des ordinateurs de travail malgré eux. Donc, à ce moment-là, il y a des facilités, puis ils sont beaucoup plus vulnérables généralement.
Et les ordinateurs du travail, sont à la maison, sur le même réseau de l'ordinateur domestique sur lequel les films sont téléchargés. Quelles portes sont ouvertes d'un ordinateur de travail?
Les ports usuels, dont les ports SMB. Hein,
qui ben, c'est ça. Puis ça, c'est Kaspersky qui était en arrière de cette découverte-là. Ben, en tout cas, Kaspersky complétait cette recherche en disant que ça vient quand même de 20 sites de phishing et de ces 20 sites-là cultivaient jusqu'à 930 cuques fichiers malicieux. C'est pas dur à comprendre qu'il y en a beaucoup qui sont à l'œuvre. Et il y en a beaucoup à ce moment-là, eh ben, ils misent sur justement encore cette fameuse pêche au filet pour être capable d'aller en chercher plus.
De toute façon, c'est ça. Ils s'attaquent toujours au vecteur le plus facile. Puis de toute façon, on a exposé ce vecteur-là. C'est pas nous qui avons initié ce vecteur-là. On a fait juste qu'observer qu'il est effectif. Donc, les malveillants s'en sont servis. Donc, passons à la nouvelle suivante. Des universités et des étudiants de cette. Des universités ont un certain conflit associé au fait que l'administration d'examens à distance implique l'installation de logiciels très intrusifs sur les ordinateurs personnels de ces 10 étudiants-là. On en a déjà parlé par le passé, mais là, on a vraiment un cas concret dans lequel qui est vraiment apparu dans les nouvelles.
Et dans les nouvelles internationales, mais aussi, Nick, il y en a ici au pays qui m'en ont rapporté, comme quoi, juste un exemple, la Polytech à Montréal qui se sert de ces logiciels-là. Logiciel américain en passant, mais qui, une fois installé, demande d'avoir accès à tout l'ensemble de l'ordinateur, spécialement la caméra, les ports USB de son, etc. Le but là-dedans, je le comprends aussi, c'est pour être capable de minimiser le risque de que quelqu'un triche à produire son examen. Et le processus aussi, pour être capable, puis même Pearson View ont lancé donc la semaine dernière la possibilité de faire des certifications, des examens de certification à distance. Et pour être capable d'accomplir ça, il faut que tu aies ton poste de travail qui s'enregistre, le logiciel qui s'installe, tu prends une photo de l'endroit, vraiment là, l'endroit là, 3D, où va être fait l'examen, et après ça, une carte d'identité réputée du gouvernement, comme on fait lorsqu'on va s'authentifier au bureau, lorsqu'on fait physiquement l'examen, physiquement l'examen. Et une fois que tout ça, ça est approuvé par on ne sait qui à l'arrière, on donne accès à l'examen. Fait que donc, c'est la nouvelle façon de faire. Là, je viens de décrire une façon commerciale, mais dans la façon académique, c'est quand même... moi, je trouve que c'est assez important de le souligner par le simple fait qu'on demande à une personne d'ouvrir son monde privé électronique, à être capable de donner l'accès à cette capacité, vraiment une capacité de dépier sa vie privée dans l'ordinateur. Et là-dessus, c'est dur à dire que est-ce que l'université devrait prêter des portables à tout le monde pour faire son examen? Hein? Ça serait logique comme approche, mais quand même logistiquement impensable. Est-ce qu'à ce moment-là, on demande à la personne d'aller à l'université dans un local isolé, blablabla, qui pourrait faire l'examen là? Oui, ça serait une autre option. Mais c'est là, en termes de période de déploiement, ils ont trouvé la solution d'utiliser ces logiciels-là qui, somme toute, semblent faire la job, OK, pour surveiller. Parfait. Mais fondamentalement, moi, je me questionne encore là sur, justement, qu'est-ce qu'il y en a en arrière? La politique de vie privée de ces compagnies-là, je les ai lus, ils disent sensiblement toujours la même chose. On est juste là pour le temps de l'examen. Une fois que le logiciel est retiré, tout est retiré, on n'a plus accès. Mais il n'y a pas d'évaluation solide, indépendante, qui a été produite pour être capable de certifier ce genre de comportement-là. Ce qui laisse la porte ouverte, justement, à de l'abus et à ce moment-là, de l'exploitation non désirée. Fait que c'est dans ce sens-là que j'utiliserais de caution et de demander justement aux universitaires, plutôt à l'administration de l'université, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais malheureusement, on peut même, je crois, prédire le résultat de la pensée. Ils vont dire c'est ça ou c'est rien. Là, personne ne veut manquer à son examen, personne ne veut lâcher le temps d'études qu'ils ont consacré déjà, fait qu'ils vont abdiquer. Puis c'est ça qui est un peu l'effet pervers en l'absence de ligne directrice que pour le besoin dans l'immédiat, ben on n'abdiquera pas, on va y aller, on va le faire, puis ça va être fini. Puis encore là, c'est parce que les gens aussi ont je cherche le terme français pour un short sight de qu'est-ce que ça peut avoir, ça a comme conséquence si jamais c'est abusé. Parce que, ouais. Est-ce qu'on. Oui, Nick?
Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, mais à courte vue, là, c'est une traduction peut-être littérale, mais peut-être une importation de l'anglais direct. Là, c'est comme, comme pousser l'aiguille, push the needle.
Oui, exact, exact. Fait que donc, si ce n'est pas adressé là, ça ne sera pas adressé plus tard, puis personne ne va l'adresser jamais, puis ça va toujours être, se répéter dans le temps, dans l'histoire. Fait que c'est là que je trouve que c'est très malicieux. Et on y perd tous si on ne prend pas action, puis si on ne dénonce pas ce genre de comportement corporatif.
Absolument, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Je trouve ça très malheureux que les institutions d'enseignement ne sont pas innovatrices, c'est-à-dire qu'ils ne font que répliquer un vieux modèle de surveillance en examen versus d'innover, d'amener, parce que l'objectif, c'est de vérifier que la personne a assimilé la connaissance. Et il y a plein de façons d'arriver à ce genre de choses-là. On en a déjà parlé largement. Juste le fait, moi, j'ai eu des examens régulièrement à livre ouvert. Le problème, quand que tu fais ben, le problème, la difficulté quand on fait un examen à livre ouvert, c'est que l'examen est tellement intense que si tu ne maîtrises pas ta matière, tu vas juste crever. Fait que, pourquoi ils ne font pas, par exemple, ce genre de choses? Pourquoi ils n'adaptent pas?
Ça, c'est. Je l'ai vu parmi des collègues, là, puis ça relève du professeur qui ne veut pas s'investir, de complexifier son examen, justement, pour d'aller mesurer ce que la personne a appris et non pas mesurer ce que la personne a retenu.
En plein ça, puis c'est encore d'autant plus important pour moi, à l'université, on est rendu dans un moment où c'est l'analyse qui doit être évaluée et non juste de vomir du contenu. Ce qu'on pourrait peut-être que dans des niveaux inférieurs de académiques, on pourrait présager, mais on pourrait préférer. Mais rendu à l'université, c'est vraiment ma capacité d'analyse qui doit être mise de l'avant et c'est pas de vomir du contenu. Donc, la capacité d'analyse, que je vois à livre ouvert, ça change rien, là. Et c'était viré. Parce qu'effectivement, ça change strictement rien. Si t'es pas capable d'analyser, tu peux avoir toutes les notes que tu veux du monde, t'auras pas le bon résultat quand même.
Voilà. Et tu vas dire, après ça, tu vas chialer que t'as pas eu assez de temps à faire l'examen. Ben oui, mais c'est parce que ça mesure justement que t'as appris.
C'est ça, cette capacité-là, puis c'est très important. Puis c'est peut-être un moment où on a peut-être le temps de se re-questionner sur comment on enseigne à nos enfants et aux, en tout cas, c'est nos adultes à les rendre à l'université. Là, c'est plus tellement des enfants. Donc, puis là, on va basculer sur la nouvelle qui est en lien avec ce que j'ai plus mentionné au début, sur le fait que les organisations vont basculer leur workforce, leur personnel qui font normalement de la cybersécurité vers des postes en TI. Je l'ai vu. J'imagine que Steve a peut-être été témoin aussi de ce genre de choses-là, mais c'est vraiment là au point où des organisations s'en rendent compte, il y a des gens qui s'en rendent compte, puis il y a des risques associés à faire ce genre de choses-là parce qu'on dévie une capacité d'une justement de surveillance et s'assurer qu'on n'ait pas de problème à une capacité purement opérationnelle TI. Donc, on devient plus aveugle, mais Steve, je vais te laisser continuer.
Pour compléter ce que tu dis, Nick, dans le fond, parce que moi, ce que j'ai vu, j'ai vécu même dans le passé, mais ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que là, on prend un spécialiste de la sécurité de l'information qui a été formé et qui anticipe de faire son travail correctement pour produire et anticiper la menace, produire les rapports qui décrit la menace, mais après ça, anticiper qu'est-ce qu'il doit faire. Là, on l'amène à faire des tâches théoriques d'entretien de serveurs puis de switch de tape backup. Encore là, une image là, pour dire qu'aujourd'hui, les backups ne sont pas juste faits par des tapes. Mais il reste fondamentalement qu'il ne fait pas son travail de base. Même souvent, je le vois, j'entends, c'est-à-dire qu'il s'étend plus de ses tâches normales parce que là, il y a des gens qui sont physiquement pas disponibles, qui sont peut-être en congé médical ou peu importe la chose. Mais ça fait longtemps aussi qu'on l'observe qu'il y a un manque de personnel aussi dans les technologies pour faire la job. Fait que ça amène la problématique justement. Que les jeunes, il faut qu'ils soient les plus polyvalents possibles pour être capables de faire du remplacement, la suppléance, je devrais dire. Et ça amène le problème de compétences, comme tu disais, Nick, parce que tu peux pas être... comment qu'on disait ça, donc? Bon dans tout, mais pas tout dans... Bon dans tout, mais pas maître dans tout. Quelque chose comme ça, là. Tu sais, tu peux être généraliste, là, tu fais à tout, mais à un moment donné, il faut que tu aies une spécialisation. Puis si tu n'es pas spécialisé, bien, tu fais trop de la généralisation, là, ton niveau de compétence est quand même limité. J'en sais quelque chose, parce que quand j'ai dit les serveurs, pour moi, c'est fini dans ma vie, là, au début des années 2000, ben pour être capable de suivre là, cette parade-là pour les serveurs, C'est un champ de compétences complètement unique et non pas un champ généraliste. Oui, je suis capable de décortiquer un serveur, c'est voir c'est quoi. Et de là, être le kingpin pour être capable de monter l'Active Directory puis de le faire comme il faut. Oups, ça, c'est une autre histoire. Puis ça prend cette spécialisation-là. Et c'est là que tu ne pourrais pas demain matin dire aller dans une compagnie puis OK, viens m'aider, garde, faut que tu remplaces un gars, il n'est pas là. OK, c'est quoi cette description de tâche? Puis c'est quoi l'environnement technique qu'il doit y avoir? Ah, il fait ça sur Red Hat Linux. Ah, boy, OK. Red Hat Linux, j'ai touché à ça 3 fois dans ma vie. Bon, ça commence bien. Fait que tu sais, c'est des affaires comme ça que la gestion qui est non initiée à la technologie n'a aucune idée. Ça implique quoi d'être un spécialiste de la technologie de l'information souvent? Et c'est comme ça que ça va épuiser davantage les spécialistes, ça va épuiser davantage les gens, les ressources humaines qui sont commis à assurer justement que ces systèmes d'information-là soient on 24/7, parce que ça prend quand même de l'entretien pour ces boîtes-là. Et surtout, dans un contexte là, de cyberattaques qui sont constantes, les mises à jour aussi des ferles à gauche et à droite. Juste cette semaine, je crois, Nick, j'ai fait 6 mises à jour de Firefox. Ça a l'air niaiseux, on parle juste du browser, là, mais il reste pareil que il y a du serveur en arrière, qu'il y a des grosses mises à jour là, qui ont été annoncées le 3 semaines. Puis je sais, dans des compagnies, c'est pas encore patché. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est pas qu'ils veulent pas le faire. C'est le temps qui manque. Avant ça, là, c'est ben avant ça, juste l'année passée, on peut dire à cette heure, tu sais. C'était quand même facile de dire ben l'informatique, on touche pas à l'informatique, faire les mises à jour entre, mettons, 6 heures le matin à 18 heures le soir, parce que tout le monde travaille en principe. Le soir, ben, soir et la nuit, c'est libre pour être capable de faire les mises à jour ces systèmes. Et là, les systèmes sont en critique et le temps a été réparti différemment. Et là, je peux dire que facilement, les systèmes de 5 heures jusqu'à 23 heures sont utilisés. Et ça, ça laisse une fenêtre beaucoup plus petite pour être capable de mettre les systèmes à jour, anticiper justement des correctifs, puis être capable à ce moment-là de déployer. Fait, si oui. C'est pas fait dans ces façons-là, je veux dire, ça court après le trouble.
Bon, c'est ça, ça demande de changer nos façons de faire. Puis un peu, ben, pour prendre ce que tu dis, moi, je suis un excellent généraliste, mais un très mauvais spécialiste. Ma seule majeure, c'est la sécurité dans ce contexte-ci. Là. Ça fait longtemps que, comme toi, j'ai abandonné d'être un spécialiste dans un domaine spécifique. J'ai été un gars TI pendant longtemps, puis j'ai basculé sécurité, puis depuis, je suis juste un généraliste. Je touche à tout, mais je suis bon dans rien. Donc, c'est à peu près ce genre de choses-là, mais j'aime bien ta réflexion sur tout l'épuisement, parce qu'effectivement, on va pousser les gens plus à capacité au bout de leurs limites. Puis déjà que les gens en sécurité sont déjà plus propices à de la dépression, du burn-out, d'épuisement professionnel que les autres, parce qu'on est déjà dans un contexte difficile, en rareté en plus. Tout ça réuni, c'est un mauvais cocktail pour les organisations, parce que c'est des articles que tu as mis en show notes que vous pouvez consulter relatent ce genre de choses-là. Si on enlève la capacité de surveillance de sécurité des organisations ou de patchage on pèle des problèmes vers l'avant. Les malveillants, on mentionne depuis déjà plusieurs semaines, ont du temps libre comme nous. Ils sont confinés comme nous, donc ils n'ont rien à faire dans leur vie. Fait qu'ils peuvent même plus aller foirer dans les clubs le soir. Maintenant, à place de foirer dans les clubs le soir, ben, ils viennent tenter nos systèmes. Fait que c'est juste, c'est fou ce qui s'en vient. Là.
C'est pour ça que nous deux, on est ici dans le podcast cet après-midi, non pas dehors.
En plein ça, parce qu'on respecte le confinement, nous. on est une somme de très, très bons citoyens. on va arrêter ces folies-là. Quoique c'est vrai qu'on est des très bons citoyens, puis c'est vrai qu'on respecte le confinement, mais voilà. Bref, pas que nos autres collaborateurs ne respectent pas, ils ont d'autres. Bref. Le Parlement virtuel soulève des questions sur la fiabilité dans le Grand Nord, puis moi, j'ai déjà confronté un peu à ce genre de choses-là. Et Steve?
Ben, ça touche un problème fondamental de notre société qui, depuis tant d'années, on se fait promettre d'être « wow, Canada numéro 1, Canada 150 », nommer tous les projets qui ont été gravités à l'entour de ça et qui ont promis justement d'avoir l'Internet haute vitesse. La promesse récente, là depuis 2-3 ans, c'est d'avoir 50 en download, 10 en upload partout au Canada, peu importe où. Et ça a commencé, ça, justement, il y a 2-3 ans, pour être capable de promettre aux gens cette connectivité-là. Et la belle documentation, parce que je me suis adonné à faire un dossier là-dessus cette semaine, qui révèle que la majorité des zones rurales, donc en dehors des zones urbaines, là, en dehors d'Ottawa-Gatineau, en dehors de Montréal, en dehors de Québec, Sherbrooke, ça demeure que c'est de la vitesse très basse qui demeure, parce que entre autres, il y a des communautés qui ne sont pas desservies par le câble télévision, c'est à peu près juste Bell ou peu importe la compagnie de téléphone qui est là, et ils ont de l'ADSL. L'ADSL, ça remonte quand même à 20-25 ans, capable d'aller jusqu'à 16 mégabits maximum si tu es en dedans de 5 km dans du CO. Fait que ça limite quand même beaucoup les possibilités. Et là, ben, j'ai un exemple qui est juste pas loin de chez moi ici, à 3 km pour être précis, et que ça se trouve à être justement à 48 km de Montréal, mais à très près de la ville de Saint-Hyacinthe, et que c'est parce que c'est un rang de campagne, il y a juste des agriculteurs là-dessus, il y a très peu de commerce, la câble de distribution passe pas là, la fibre optique passe pas là. On est en 2020, puis je donne souvent l'exemple que ma visite à Port-au-Prince en Haïti, il y a 2 ans, ben eux autres, il y a de la fibre partout. Wow, OK, quel est ouais. le pays dans lequel on est rendu, qu'on est vraiment là des en deuxième lieu, de considérer qu'il faut tout brancher notre citoyen, il faut tout brancher nos commerces. Et les seules alternatives, bien souvent, ça reste du sans-fil. Du sans-fil soit arrangé ad hoc ou bien à travers du LTE. Ah, ben ouais, du LTE, c'est instable, premièrement, de moins en moins avec la 5G, mais ça coûte des yeux de la tête. Puis après ça, ben c'est les autres, ceux et celles qui sont encore en campagne plus éloignée, pour ne pas dire au nord, vraiment au nord, là. Ben là, c'est la dépendance à le service satellitaire. Puis là, ben quand il y a eu le Parlement virtuel cette semaine, oups, il y a des parlementaires qui avaient de la misère à connecter avec Ottawa. Pourquoi? Ben regardons ça, ils n'ont pas de l'accès à haute vitesse pour être capable de soutenir la vidéoconférence. Ah ben, fait que là, ça va être le fun de soulever ce débat-là encore, de justement connecter les régions éloignées avec quelque chose qui fait du sens et non pas aussi qu'il soit la fin d'un budget puis que ça coûte les yeux de la tête. Parce que déjà là, quand on est en région éloignée, ça coûte déjà plus cher pour l'approvisionnement de biens et services. Puis que là, si on rajoute la télécom là-dedans en plus, que ça coûte 2,5 fois qu'est-ce que ça coûte au sud, mais là, c'est pas normal. Mais parce que si ton satellite va te brocheter ça partout en Amérique du Nord, que tu sois au nord ou au sud, ça devrait être le même prix. Là. Fait que c'est ça que je comprends mal des fois, que la façon que c'est réparti. Puis ça va être, je crois, une belle opportunité pour justement à réaligner les priorités comme ça. Parce que ce que je trouve dommage aussi, puis ça, c'est manque de leadership de notre gouvernement, c'est d'imposer, de dire aux compagnies de télécom, qui en arrachent déjà d'ailleurs, mais qui devraient être responsables, eux aussi, d'entretenir le réseau et de l'améliorer, pas attendre après les subventions qui viennent d'Ottawa pour être capable d'injecter ça dans leur compagnie pour dégager toujours la même marge de profit, là. Il faut qu'eux autres investissent dans les infrastructures, il faut qu'ils rendent justement raison qu'on redevienne en avant-plan un pays très compétitif en termes de télécom. Tu disais justement, Nick, la moyenne mondiale, c'est encore pas loin de 25 mégabits. Ça, c'est en Corée du Sud, qui a une merveilleuse autre infrastructure fibrée partout. Mais ici, au Canada, on est encore alentour de 16-18 mégabits par seconde. Encore là, chacune des études dit les affaires, tu sais comme moi, il y en a des différentes.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Pour j'ai eu des cas de choses avec des choses satellitaires pour le Nord québécois, entre autres. Là, toi, tu parles plus du Nord canadien en général. Je trouve ça un peu bizarre qu'on n'ait pas encore fait quelque chose de mieux structuré. En ce sens-là, je crois que le plan Nord aurait été intéressant parce qu'on aurait eu une voie terrestre entre ce qu'on pourrait dire le sud du Québec et le Nord, que ce soit par train ou par route. Personnellement, j'aurais fait le train parce que je trouve ça plus stable comme moyen de transport de massif entre ces zones-là. Mais en ayant cette zone-là, on aurait pu monter une fibre vers le nord et aurait pu permis au nord du Québec d'être peut-être pas fibré chacun à la maison, mais au moins qu'il y ait une grosse fibre qui monte jusque dans le nord, parce qu'on aurait fait les mêmes travaux que tout ce qui a ramené la voie ferrée ou la route. Donc, à ce moment-là, on aurait eu une capacité de les mettre au 21e siècle comme tous nous autres.
Il y a déjà un conduit de haute vitesse, Nick, c'est avec les lignes de haute tension. J'ai déjà travaillé sur le projet en 2009-2010 d'amener l'Internet dans le Nord comme ça à travers les lignes d'hydro. Puis les gens qui travaillent à Bay James, ben, il est alimenté par un hub à Montréal. Puis ça passait par les lignes de haute tension de 725 kV.
Ouais, mais ils partagent. Malheureusement, Hydro ne partage pas avec la communauté locale. En tout cas, ce que je sache, je n'ai pas eu d'informations en ce sens où cette dite fibre-là ou cette communication-là qui passe oui. par la chose n'est pas partagée en dehors d'Hydro-Québec. Ils ne savent plus leur propre intérêt.
Exactement. Mais il y a des pressions présentement de groupes, de certains groupes qui demanderaient justement que Hydro partage cette infrastructure-là pour être capable de combler ce vide et d'amener ça dans des régions quand même assez éloignées à peu de frais parce que l'infrastructure est déjà là, tu sais, les pylônes sont là. Mais après ça, je suis d'accord avec toi. Tu amènes justement un point de concentration et tu diffuses tout ça en Wi-Fi pour pas dire en 802.16. Voyons, 802.16, c'était WiMAX. C'était quand même une bonne technologie pour desservir justement des communautés éloignées comme ça. Fait que c'est à voir, mais je crois que les projets de 5G devraient aussi motiver à amener cette connectivité-là un peu plus près des citoyens en région éloignée. Là, ça, je pense, ça va être un bon dossier à suivre. Mais fondamentalement, il reste que le portrait actuel, ça, on n'a pas ce qu'on se fait miroiter.
Absolument. Absolument pas. Mais si ma mémoire me sert bien, je pense que Hydro ne peut pas partager sa fibre parce qu'Hydro n'est pas autorisé parce que ce n'est pas un opérateur télécom. De mémoire, là,
ça a plein de sens.
Contredisez-moi si j'ai tort, là, mais il me semble qu'on m'avait dit ça à l'époque parce que quand même, ils ont quand même une capacité de fibre noire qui est assez intéressante, mais qu'ils ne peuvent pas partager pour des raisons probablement réglementaire.
Ben, comme les écoles qui ont été fibrées dans les années 90, ça, c'est un réseau noir pour toutes les commissions scolaires partout. Puis, sont autorisés justement de faire des. Encore là, pour des OBNL, non pas pour des ventures commerciales, d'être capables de justement partager les fibres pour le besoin éducationnel, toujours sur un fond comme ça. Je te dis ça, ben, je l'avais regardé ça en 2008-2009 lorsque j'ai fibré le collège à Saint-Jean. Puis, ça, c'en était des capacités qu'on avait regardées d'aller utiliser la fibre optique dans la ville de Saint-Jean, qu'appartenait à la commission scolaire, puis finalement, on s'est avéré à tirer 6 km de fibre à travers la ville, donc ça a réglé le problème. C'est pas la défense qui l'a établi, justement, c'était des licences d'un transporteur qui, lui, a été chercher des autorisations des droits de passage sur chacun des poteaux. Puis après ça, une fois que c'est rendu ces deux bases, à l'intérieur des bases, ça, c'était complètement indépendant, là, il n'y avait pas besoin de rien d'autre.
Très intéressant. Puis l'autre axe que tu as soulevé, puis qui est très intéressant, que je vis plus dans mon quotidien, tu vois à quel point mes collègues, certains ont une bonne connectivité Internet et d'autres ont une moins bonne connectivité Internet. Et je dirais même, moi, perso, que j'ai quand même une très bonne connectivité. Là, globalement, je m'en plains pas. Sauf que j'ai 5 personnes à la maison, dont généralement 3 qui écoutent Netflix pendant le jour. On est au moins 2 sur de la visioconférence en plein jour. Et mon 250 MB commence à être un peu mou par rapport à mon besoin de connectivité. Des fois, j'ai des fluctuations. Même moi, j'ai des fluctuations. Puis j'ai trouvé ça fascinant. Il va falloir que j'appelle mon fournisseur pour faire grimper d'un cran ma capacité Internet. Mais ça, c'est mon cas à moi. Mais le cas de plusieurs de mes collègues où on a la qualité vidéo, elle est juste pas bonne, puis des fois même des coupures aussi, même juste du son, des fois ils ont de la misère. Fait que c'est intéressant de voir où les gens mettent leurs choses. Puis en plus, ça veut aussi dire la capacité réelle, puis le coût associé à cette capacité-là dans nos infrastructures, tu dis dans dans la campagne où ils ont peu ou pas d'accès ou des accès en DSL, c'est atroce en DSL, là, tu peux pas faire de la visio parce que tout ce que tu pousses en bas d'un meg. Fait que c'est insuffisant. Puis si on regarde les protocoles, comme la plupart des outils commerciaux et libres d'usage sont basés sur WebRTC comme protocole. Le WebRTC, ce que ça fait, là, c'est qu'il n'y a aucune communication vidéo et audio qui passe par le serveur. Ils passent tous de façon point à point. Ce qui fait que si on est 16, tu reçois 16 streams sur ta machine en même temps. Ce qui fait que ça va péter. Puis si tu n'as pas de bande pour la tolérer, ben, tu vas juste comme exploser là, puis tu vas juste comme partir dans le néant.
Parenthèse à ça, justement, il était fier d'annoncer justement à la magistrature du Québec qu'ils utilisent WebRTC pour faire les procédures judiciaires futures virtuelles. Puis moi, j'élaborais là-dessus parce que c'est un code ouvert quand même. Puis oui, tant mieux, ils ont développé alentour de ça. Mais justement, Nick, tu as mis le doigt sur le bobo. Ça va amener du lag pas mal sur cette capacité-là.
Oui, ben c'est ça, c'est ce qu'on connaît pas. Ce que les gens connaissent mal en dessous, c'est le fonctionnement de ces technologies, puis WebRTC. Oui, heureusement, c'est un standard ouvert qui est, ma foi, assez sécuritaire lorsque bien implanté, by the way. Si tu l'implantes mal, tu vas tout perdre ta capacité de sécurité dans le protocole et tout ce qui est fait, mais sinon, c'est super. J'ai lu beaucoup de papiers sur la chose. Bref, on a frappé la chose. Télécom, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ça presse. Et passons au sujet suivant, qui est rançon logiciel, qui a été mentionné de plus que 1000 fois dans des déclarations faites au Security Exchange Commission aux États-Unis dans l'année passée.
Autant que c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais c'est très révélateur que dans le rapport, c'est mentionné que ça part de 2014, qu'il y avait des rapports de 3 tentatives ou plutôt extorsions par le rançon logiciel, et qu'en 2019, ça l'a éclaboussé à 1139 cas, et présentement, en 2020, il y en a déjà 743. Enfin, juste pour au moins qu'on est dans l'année, là, 4 mois, 5, on arrive dans le 5e mois, vas-tu, Nick, déphasé, mais... Fait que là, c'est là que ça démontre justement que, wow, il y a quelque chose de ça, c'est la nouvelle tendance du jour et c'est pas pour rire, mais encore une fois, les malfaisants, eux autres, vont exploiter toutes les situations possibles pour être capables d'en faire l'extraction. Et aussi, la moyenne avec laquelle les rançons sont demandées, ça l'a augmenté de façon très significative. Avant ça, c'était quelques milliers ou centaines de dollars que là, c'est rendu fréquemment, là, dans les centaines de milliers de dollars, pour pas dire en moyenne, là, 110, 125 000. Fait que c'est là où ça devient à ce moment-là très intéressant de calculer ça, parce que lorsqu'on en fait un business impact assessment, une évaluation d'impact sur les activités, c'est supposé de dégager là comment mal ça va faire à l'organisation si jamais, un, les systèmes sont cryptés et donc par ransomware et qu'ils ne sont pas opérationnels. Bon, c'est quoi le temps? Combien de temps l'organisation est prête à survivre et qu'elle est capable de survivre sans ses systèmes informatiques? La majorité des entreprises aujourd'hui, on sait que c'est très peu de temps. Et après ça, c'est quoi les plans de relève, les plans de remise en action? Fait que c'est plus que jamais important de faire ces évaluations-là, encore là, basées sur une évaluation de menaces et de risques. Et j'en force à dire à chaque podcast, je pense que c'est très important à structurer dès le début dans sa façon de concevoir un réseau informatique pour être en mesure de déterminer et certifier ce à quoi, dans quel environnement on baigne et on travaille. Plus après ça, faire les BIA, les BCP, etc. Oui, il y en a pour qui ça va être une montagne, puis c'est fatigant à travailler, c'est parce que ça demande beaucoup de travail, c'est très rigoureux quand même. Cependant, une fois que c'est bien fait, ça a bien été fait, ce qui en dégage, ben c'est juste la facilité après ça, comment convaincre les patrons en haut lieu, c'est pourquoi qu'on a besoin de plus de budget, besoin de plus de personnel, la structure et la stratégie justement du réseau et tout ça vient avec. Ça, c'est les documents de base qui vont venir appuyer ce que vous nécessitez. Ceci dit, dans le plan de continuité des affaires et le BIA, l'impact assessment, ben, dans le cas de ransomware, c'est clair que là, ça prend une place de choix dans la considération que, ouais, faut pas que ça nous arrive, et si ça nous arrive, comment qu'on travaille? Faut vraiment que ça soit quasiment un chapitre juste à ça. Puis on en a eu des exemples au Québec, ici, dans les 4 dernières années, en termes de transparence de déclarer ces événements-là et d'ignorance de le déclarer aussi. Puis j'aime bien utiliser l'exemple de Norsk, une compagnie, une alumineriée norvégienne, chez qui ça s'est arrivé l'an dernier, et que ça nous a coûté 75 millions de OK, ça c'est un chiffre. Mais ce qui est appréciable de cette compagnie-là, c'est que sont allés au bas, sont arrivés en avant, messieurs, dames, on s'est fait rentrer dedans par un ransomware, toujours en respectant la norme du protection générale des données personnelles d'Europe. Et voici, ça nous arrive, on va travailler, on vous revient. Oh, ils sont venus après, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on en est, on vient, oh, ils reviennent. Ouais,
puis le montant de millions dans leur cas, c'est probablement une goutte d'eau dans l'océan, cela étant dit, par rapport à ce que ça aurait pu leur coûter en d'autres circonstances. Mais la préparation, et on l'a, je vais plugger l'épisode 148, justement, avec lequel on parlait de ce genre de choses-là, de gestion d'incidents dans le cas de télétravail. Yes. La préparation, le BIA, le BCP, tout ce que tu mentionnais, ça fait que quand tu arrives devant un incident, tu arrives devant une situation, dans ce cas-ci, des rançons logicielles qui est mentionné, que tu dis, au lieu d'improviser, au lieu d'inventer au fur et à mesure, tu fais juste exécuter ton plan, quitte à l'ajuster.
Parce que
c'est parfait, là. Mais au-delà de ça, tu exécutes et t'improvises beaucoup moins Puis donc, tu diminues ta probabilité d'erreur. Ton plan de com, normalement, devrait être inclus là-dedans. Fait que toute ta séquence suit, puis tu descends ton rôle de ton plan au complet, puis après ça, ben tout devient beaucoup plus simple.
Puis j'en faisais état, justement, dans une émission cette semaine de radio, au gouvernement fédéral, c'est vendredi dernier d'ailleurs, il y a une très mauvaise mémoire, parce que il y a eu, puis je parle juste de mon expérience récente, là, le verglas en 98, le passage à l'an 2000, puis après ça, le 11 septembre, les toutes sortes de réactions à tous les événements de désastres naturels, les Olympiques à Vancouver. Je veux dire, c'est tous des gros événements avec lesquels ça a demandé beaucoup de préparation puis de l'anticipation puis tout ça. Il y en a que c'était de la réaction. Comme le verglas 90, c'était de la réaction à quelque chose qu'on n'a jamais anticipé. Pareil comme le contexte de la pandémie actuelle. Mais c'était facile d'anticiper que c'était juste de rebâtir le réseau, ramener l'électricité, et après ça, on continue à vivre dans notre société. Ça, c'était la finalité qui était facile à voir. La lumière était facile d'anticiper au bout du tunnel. Présentement, c'est le contraire. On n'a pas de lumière, là. On est vraiment dans pitch dark, puis on ne sait pas quand ça va se terminer. C'est ça la grosse différence. Cependant, si on avait fait un parallèle, ben ça aurait été facile d'anticiper qu'il nous manquait du matériel dès le début, puis il y a beaucoup de professionnels qui se sont avancés, qui ont laissé savoir, puis il y a des parties, des têtes dirigeantes qui ont dit non, c'est trop. Puis je faisais justement état du manque de VPN au gouvernement fédéral, dont des amis qui sont dans le service militaire qui... Ils chialent quand même assez fort là, sur leur tâche de travailler déployé. Ils peuvent pas être dans les bureaux. Puis ils peuvent même pas faire le liaison à part par le BlackBerry parce qu'il n'y a pas assez de connexion VPN. C'est fou! C'est fou, ça, là. Puis on sait très bien qu'il y a une connexion VPN, c'est pas grand-chose, mais s'il n'y a jamais eu d'entretien pour l'infrastructure en arrière, il faut accepter, même si tu injectes 150 licences de plus sur l'appareil qui gère les points de connexion, ton infrastructure est capable de supporter ça à partir de ce point-là, alors que c'est normalement inside. Fait que c'est tous des éléments comme ça que il y a encore là, c'est du short-sighting, c'est du just-in-time, c'est une mauvaise gestion. Puis dans les écoles de gestion, j'espère qu'il y en a qui sont à l'écoute, faut que ça change. Les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise, ben ils se doivent justement d'aller changer cette façon d'approcher la planification, tout, puis moi je dirais en anticipant qu'est-ce qui peut arriver aussi fantasmagorique. Je dis ça comme exemple, Nick. Mais ça peut être en anticipant l'astéroïde qui va venir frapper la Terre. On peut-tu faire un plan pour ça? Tout le monde part à rire.
Entre autres, puis le monde part à rire. Puis dans une des analyses que j'avais eues, je pense que c'est de The Atlantic qui avait parti de ça, qui parlait de voir toute la mauvaise préparation des États-Unis par rapport à ce qu'est l'arrivée du COVID. Il disait, pourquoi vous prenez pas la force logistique de l'armée américaine? Je pense qu'il disait, c'est 16 000 personnes qui ne font que la logistique de déploiement des forces à l'étranger. C'est des gens qui sont ultra spécialisés dans la chaîne d'approvisionnement, dans la gestion de déploiement, dans la gestion de tout. Mais bon, vous n'avez pas ce genre de monde-là pour déployer sur les respirateurs, les masques, coordonner les hôpitaux, coordonner toutes ces choses-là. Ces gens-là sont super bons. Et encore là, comme tu dis, short-sighted, à courte vue, nos pouvoirs publics malheureusement n'utilisent pas leur capacité militaire et organisationnelle pour propulser leurs décisions correctement. Oh, j'ai une petite minute. Oui, oui.
Il fallait en faire ça. Et là-dessus, je te rejoins, Nick, en disant, puis quand ils ont commencé à penser à déployer les militaires dans les cliniques, puis on le voit, là, Montréal-Nord, c'est en train de tomber, l'apport de bras militaires, peu importe qui, là, ils s'en vont donner un coup de main, bien, ça va aider justement le paquet de professionnels de la santé qui commencent à être à moi la langue à terre, puis être malades parce qu'ils sont fatigués, puis... Il y a des erreurs qui se font là. Fait que ça va aider. Mais je disais ça parce que pourquoi pas inviter des officiers, des sous-officiers des forces armées à venir aider les gestionnaires puis les coacher, c'est quoi gérer en temps de crise. Ça là, ça serait le plus beau cadeau je crois que l'armée pourrait faire à la société et ils seront prêts à le faire. C'est ça qui est le pire. Mais encore là pour des raisons d'ego, des raisons que syndicat, ils veulent pas l'accepter l'offre. C'est ça que je trouve dommage, Nick, ils veulent pas s'améliorer. Parce que on a un contexte parfait, que pendant qu'il y en a d'autres qui travaillent sur le terrain, il y en a d'autres qui pourraient apprendre comment mieux gérer, justement, et anticiper les situations, que ça soit la prochaine fois, que ça soit jamais la même chose, qu'est-ce qu'on vit là. Puis c'est ça que je trouve dommage. Les gens, on dirait qu'ils veulent pas apprendre, puis ils veulent pas voir que c'est une belle opportunité pour apprendre.
Il y a effectivement ça, mais c'est parce que c'est comme oublier que la capacité logistique de l'armée, elle est vraiment intense. Parce que ce n'est que ça, la dorsale de l'armée, c'est de la logistique. Et ces gens-là c'est des machines logistiques pour ce genre de choses-là. Et puis dans un contexte comme ça, ils sont adaptés, ils ne font que ça, gérer des situations de crise, ils ne font que gérer des gens en déploiement, ils font gérer des espèces d'affaires, là, c'est juste insane. On n'a même pas idée comme civil à quel point tout ça peut être fou, ce qui peut se passer là. Mais pourquoi on ne les écoute pas? C'est, comme tu dis, c'est excessivement malheureux. Puis en même temps, ben, c'est le monde civil a un peu de misère à admettre que les militaires ont cette capacité-là.
Oui, puis même, je te lançais tantôt Walmart. Quand il est arrivé, je me souviens, je crois que c'est Katrina, comme ouragan, mais Walmart était déjà dans ses vannes avec l'évaluation, qu'est-ce que ça prenait, etc., pour être capable de donner un support direct à la population. Et ça vient, le façon de travailler là, chez Walmart, ben, ça vient juste, ça découle de cet héritage militaire, alors qu'il y en a beaucoup du service à la retraite ou qui ont entré chez Walmart et qui ont porté cette expertise-là. J'étais sur une appel conférence justement jeudi, que c'était avec des vétérans, et il y en a un là-dedans qui travaille avec une agence fédérale, justement, le FinTrack, et qui, justement, il a fait cette intégration-là d'être capable de prendre connaissance d'une situation, la décortiquer, et froidement analyser les besoins pour être capable justement de prioriser correctement la résolution de problèmes. Et c'est qui ça vient justement des révélations parce que, comme je disais tantôt, souvent dans les enseignements civils, c'est pas pris en considération. Et très souvent, là, je disais l'exemple avec les gestionnaires puis les dirigeants d'entreprise, ben, il n'y a pas grand monde qui ont servi comme militaire, fait qu'ils n'ont pas ce réflexe d'être capable de le faire, ces relations-là. Alors que si on regarde là, 40 ans, les dirigeants d'entreprise, ben, ils avaient fait soit la deuxième, la Corée, ou ils avaient servi autrement. Et ils avaient donc touché à ça d'une façon directe ou indirecte, si ce n'était pas qu'ils arrivaient d'une famille où ce que le bonhomme, lui, il avait été au combat en quelque part. Fait que ça, c'est un changement, justement, générationnel que j'ai vu qui manque présentement dans les entreprises d'ici pour être capable d'être plus résilient. Je pense que c'est le mot du jour pour être capable de décrire ça.
Résilient, mais en même temps, c'est peut-être dans une école de managerial où qui manque cette espèce de pensée-là plus militaire. Puis je te dirais que dans mon contexte de travail, il est arrivé à plusieurs reprises, pas que j'ai servi, mais je suis quand même proche des univers militaires malgré tout parce que j'ai des amis dont toi, Steve, qui ont participé. Donc, tout ce savoir-là que transpire, puis j'en capte un petit peu. C'est très difficile de transmettre dans un univers civil. Puis là, on va parler, disons, de la classification, on va parler de l'aspect logistique, on va parler de la chaîne de commandement. Toutes ces notions-là, c'est farfelu, puis c'est peut-être, justement, comme tu dis, c'est un souvenir trop lointain pour la plupart des gens en entreprise ou général en population qu'ils ne se rappellent plus. Qu'est-ce que c'est de façon collective, qu'est-ce que c'est ces aspects-là?
Puis plus que jamais, dans le contexte d'aujourd'hui, le plan de succession. Ça a l'air morbide de parler de ça. Mais là, le président tombe malade. C'est qui a le pouvoir, après ça, légal, de gérer l'entreprise, qui peut prendre des décisions, qui peut autoriser les achats. Tout ça, là, quand c'est pas préparé à l'avance, holy crap, il y a de l'improvisation. C'est plus que de l'improvisation. Là, tu cours en tabarouette. Fait que c'est ça qui est. C'est tout ça, c'est des éléments à anticiper, puis que de là, il faut sortir plus grand, définitif.
Effectivement. Puis passons à la nouvelle suivante, puisqu'on revient beaucoup sur le fait militaire, j'ai l'impression qu'on va continuer à en revenir. Puis je lance une invitation à nos auditeurs. Si vous avez des idées ou des choses par rapport à ça, venez partager nos informations sur Twitter, Facebook, puis échanger avec nous, parce que c'est intéressant d'avoir aussi vos feedbacks par rapport à ça. Parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup là, en termes de collaborateurs au niveau du podcast. Donc, la nouvelle suivante, c'est ben là, il y a eu l'abus d'une personne qui a utilisé des outils d'espionnage dans un contexte professionnel pour des choses, des histoires de cœur.
Et c'est pas en utilisant un simple outil qu'il a trouvé dans une boîte de céréales, excusez-moi de le paraphraser comme ça, mais c'est des gens à la compagnie NSO, une compagnie de dépiage électronique israélienne, que j'ai jamais pu visiter justement en janvier, là, ça c'était en dehors du tour, mais qui justement, NSO sont réputés pour le logiciel Pegasus, qui est très invasif. C'est le nec plus ultra de la façon d'espionner quelqu'un. Et récemment, c'est Jeff Bezos là, qui en a fait des frais suite à l'assassinat de M. Khashoggi et qui s'est lui-même fait investir le logiciel Pegasus à travers une faille qui était dans WhatsApp et que par une vidéo, s'est fait insérer justement le logiciel d'espionnage sur son téléphone. Et donc, à travers de ça, pour des histoires de cœur, ils ont été capables d'utiliser les produits et aller en savoir davantage pour être capable de comprendre la situation. J'en ris parce que ça veut dire que quand tes pouvoirs assez forts comme ça, ben tu peux potentiellement échapper puis dire « Ah, ben personne ne va le savoir, personne ne regarde, tu sais, je vais prendre une minute, j'en ai m'enquérir. » Mais ça amène ce sujet-là, justement, que comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'oversight? Mais c'est une compagnie privée. C'est qui déjà, Nick, la compagnie italienne là, qui s'était fait ramasser aussi? Là, j'ai oublié le nom.
Je m'en souviens pas plus, fait que je peux pas t'aider beaucoup.
C'était une compagnie italienne, en tout cas, qui a aussi produit du matériel d'espionnage comme ça. Et que là, soudainement, à cause de la pandémie, mais là, toutes ces compagnies-là ont commencé aussi à se manifester, intéressés à aider à faire du trace tracking, donc de faire de la surveillance en déplacement des gens avec le téléphone intelligent. Oui, le logiciel sert à ça parce que ça transmet en temps réel la position, qu'est-ce qui est échangé, etc. Mais fondamentalement, à l'arrière, ils respectent pas trop la vie privée puis l'anonymisation des informations qui sont échangées. Fait que donc, ça nous amène encore une fois sur à se questionner, est-ce que ces compagnies-là ils ont encore leur place? Il y en a qui vont dire oui, ça sert justement à faire de l'espionnage semi-officiel, pour pas dire clandestine. Mais après ça, comment est-ce qu'on fait pour les détecter et les arrêter? C'est très difficile. Très, très, très difficile de détecter si un téléphone, une pièce d'équipement a été investi de ces logiciels-là. Parce que même si on a un antivirus, ça bypass tout ça. Fait que c'est fondamentalement assez épeurant. On l'a vu la semaine passée, une vulnérabilité quand même assez vieille d'Apple qui, avec peu d'interaction avec le courrier électronique, pouvait à ce moment-là faire planter l'appareil. Ça donne froid dans le dos parce que ça veut dire que les systèmes d'exploitation, il faut les anticiper comme étant peu sécures, même s'ils se déclarent sécures puis les plus fiables de la Terre. Mais c'est là que je comprends mal comment est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'assurer justement, Nick, là, que hors de tout doute, on est capable d'arriver puis dire à nos compatriotes, pour pas dire à notre famille, hey, prends ça, ça va être safe. C'est le hacking team que je cherchais qui était mis là.
Oui, ben c'est un peu ça. Puis pour relater par rapport à ce que tu mentionnes, c'est parce que là, ce qui est louche, parce que c'est tous des systèmes qui sont développés pour faire de l'espionnage. Ça, c'est une chose. Ça va demeurer, puis l'espionnage va toujours être. Donc ça, c'est une base. Sauf qu'en même temps, quand ces mêmes logiciels-là commencent à basculer dans l'univers civil, là, ça devient troublant, parce que dans l'univers civil, normalement, on est protégé par ces abus-là de surveillance, parce qu'on appelle ça de la surveillance en civil, contrairement à l'espionnage. Dans un contexte de pur espionnage, je peux comprendre, puis on ferme les yeux, mais c'est toléré dans l'ensemble. C'est tout ça, c'est aussi toléré au niveau militaire puis au niveau ce genre de choses-là. Il y a comme une tolérance. Ça devient pas un acte de guerre quand c'est de l'espionnage. C'est pas exactement la même chose. Là, je lance la balle à Steve parce qu'il connaît plus que moi là-dedans.
Ben oui et non, ça dépend des mandats parce que quand c'est en temps de paix, il faut que tu aies un mandat qui est en arrière, qui vient appuyer parce que si c'est dénoncé, s'il y a quelque chose qui va pas bien, puis il y a des traces qui sont laissées, ben à ce moment-là, vous serez capable de t'expliquer légalement parlant. Mais quand c'est un contexte de conflit, là, à ce moment-là, tu as quasi carte blanche pour être capable d'aller chercher l'avantage sur l'ennemi, pour être capable de gagner, là, d'être en avant des coups. Puis, tu sais, ça fait penser à des logiciels aussi simples que Ring. Ring, c'est un logiciel italien, justement, qui t'aide à faire du diagnostic dans un subnet désigné. Puis souvent, c'est apporté dans l'élément domestique. Mais Ring aussi, ils se sont fait pogner la main dans le sac à aller, justement, de façon inappropriée, avoir accès à l'information citoyenne, ça, au début de l'année. Et ça fait peur aussi. Donc, plus qu'on amène des éléments de surveillance, encore là, qui ont l'air naïfs dans nos environnements domestiques, ben, imaginez dans l'environnement commercial qu'est-ce que ça fait, puis ça cherche. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est plate à dire, on est là comme, on veut profiter de la technologie, mais on est toujours sur nos gardes, on est toujours sur nos défenses pour être capable de comprendre si on est en train de se faire avoir ou pas, puis ça devient plat, ça épuise pas rien.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, puis pour revenir plus au cœur de la nouvelle elle-même, il y a qui surveille, c'est très important, puis c'est des nuances assez particulières parce que ces organisations, je sais qu'au niveau américain, il y a quand même une certaine surveillance des activités des organes de surveillance. On a vu dans le passé certains dérapages de ces organes de surveillance-là qui sont devenus trop invasifs dans plusieurs aspects. Puis normalement, ils sont supposés être surveillés par des comités sénatoriales ou au Congrès. Et ou au Congrès, là, si je m'y connais moins bien. Puis Mané, mais il ne faut pas s'étonner que ces organisations-là qui sont spécialisées dans la surveillance dépassent leur mandat parce que c'est leur spécialisation. C'est pour ça qu'on a besoin d'une surveillance civile qui vient de s'assurer qu'ils respectent la portée de leur mandat et ne s'excitent pas parce qu'ils sont trop contents de surveiller trop loin. En cas de compagnie privée, cette notion-là, elle est plus abstraite parce qu'ils n'ont pas les mêmes chaînes de commandement et ils ne répondent pas aux mêmes règles. Dans ce cas-ci, dans le cas de NSO ou même de Hacking Team en Italie, eux autres, ils répondent à leur shareholder, à leurs actionnaires qui, eux autres, veulent des profits. Donc, l'objectif n'est pas le même. Et même Clearview AI, c'est à peu près dans le même spectre. L'objectif n'est pas un objectif de reddition de compte comme les organisations civiles, pas civiles, mais publiques, doivent faire, dont les organes militaires. Eux autres, ils n'ont pas ça. Fait que ça donne un lieu, dans ce cas-ci, des abus. Malheureusement, des abus, là. Puis j'en ai vu dans mon entourage, malheureusement, ils se sont fait taper ses doigts, bien heureusement, mais les gens ont tendance à vouloir regarder un peu trop loin par rapport à ce qu'il y a. Puis les gens sont malheureusement curieux. Ou heureusement, ça dépend qu'on regarde.
Oui, mettons de l'heureux là-dedans.
Fait que cette curiosité, des fois, il faut s'assurer qu'elle soit pas malsaine et qu'elle vienne pas troubler les règles qu'elle on se donne. Puis justement, en parlant de curiosité, puis saine ou malsaine, Steve va nous entendre un peu plus sur le traçage des activités dans les différents pays par rapport au COVID-19 puis comment tout ça peut se matérialiser.
Oui, parce que là, ça fait quand même un mois et demi là, qu'on en parle 6 semaines correctement pour que les gens veulent connaître, pas les gens, c'est-à-dire, mais les gouvernements veulent connaître l'état de la situation. Et le 1er avril, le gouvernement canadien a mis en ligne sa propre application là, qui, en collaboration avec une compagnie de la santé de Colombie-Britannique. Sur une base volontaire, j'enfonce là-dessus, documente justement les états de santé. Les gens peuvent manuellement dire « ben moi, je me sens comme ça aujourd'hui », puis ils enregistrent évidemment la location, la géolocalisation de l'appareil. Et ça se veut d'être encore là pour donner une idée générale de la situation. C'est totalement compréhensible, mais si la loi des mesures d'urgence aurait été passée, là, il y aurait pu avoir implantation directe sans qu'on ait un mot à dire. Mais la situation n'est pas si grave que ça aujourd'hui. Mais là, on a une deuxième phase qui s'en vient. Puis là, dans la deuxième phase, ils veulent comprendre comment ça va se déployer, surtout où est-ce que ça va se manifester. Et là, au Singapour, dès le début, ils ont adapté eux autres une application qui s'appelle Trace Together. Et l'Alberta, hier, ont mis en place, pas hier, jeudi, ont décidé de... Non, hier, c'est le premier, excuse-moi. Ont décidé d'utiliser ce genre d'application-là. C'est la première en Amérique du Nord qui fait ce genre de traquage-là. Et l'avantage de ça, c'est que ça utilise le Bluetooth pour être capable de savoir si on est en contact avec un autre appareil d'où la personne a déclaré qu'il y avait des symptômes, le favorisant ou plutôt le pointant vers un état COVID. Ça date, ça travaille avec des données anonymes. Ça respecte le cadre réglementaire plutôt d'éthique commis de l'avant l'Organisation mondiale de la santé il y a quand même plusieurs mois pour donner justement un aperçu que ça devrait y aller dans cette direction-là. À date, les fabricants respectent ça en grosse partie. Évidemment, la Chine, ça, c'est une autre histoire. On pourrait en parler pour une autre fois. Mais j'ai trouvé quand même assez intéressante qu'en Israël, justement, eux autres, ils n'ont pas fait ni un ni deux. Les services, les autorités ont dit on veut se servir de la géolocalisation cellulaire, GPS, donc, puis ils ont été. Mais là, la semaine dernière, ils ont demandé un deuxième mandat de faire ces interceptions-là, puis la Cour suprême nous interdit de faire de continuer d'épier les citoyens comme ça. Mais l'affaire avec l'Allemagne, eux autres aussi, ils ont été avec une façon très anonyme et très anonyme pour ne pas justement enfreindre davantage la vie privée des gens, alors que c'est pour donner un portrait de la situation. Fait que ça donne le ton que je ne vois pas présentement la tendance, peut-être tu l'as vu autrement, Nick, mais je ne vois pas de tendance sur le contrôle totalitaire qu'il y en a beaucoup qui anticipent, que beaucoup de pays voudraient s'orienter à faire. Et si ça serait une tendance globale, bien, on n'aurait pas vu des pays comme l'Allemagne ou l'Israël aller dans une direction autre que maintenir le contrôle de sa population. Alors, si on a adopté ça ici au Canada, c'est certain qu'il y en a tout de suite qui vont y voir conspiration et tout. Mais encore là, c'est la raison étant présentement, là, l'application, elle est suggérée, l'application est encore là à être utilisée sur une base volontaire. Et tant que ça va rester comme ça, les dommages vont être limités. Le gouvernement va accumuler certaines données parce qu'encore une fois, il y en a qui n'ont jamais rien à cacher. Ils vont y aller de l'avant, ils vont être fiers de participer à ça. Ça les garde occupés. Mais fondamentalement, donc, ça donne l'information qu'autrement, oui, le gouvernement n'aurait pas.
Oui, mais c'est ça que j'ai constaté aussi jusqu'à présent, c'est que, puis là, Israël, je n'étais pas au courant que les tribunaux ont renversé la décision du gouvernement, puis ça, je trouve ça super intéressant parce que ça, on vient voir à quel point l'appareil juridique est capable de rebalancer la force des pouvoirs, puis c'est heureux de constater ce genre de choses-là, c'est aussi heureux ce qui se passe en Allemagne, cet élément de rebalancer la santé publique versus la protection de la vie privée, parce que si on n'est quand même pas dans des États totalitaires, c'est sûr que là, on exclut de cette réflexion-là l'Iran, puis la Chine, puis tous ces pays-là qui ont un naturel plus totalitaire en termes de gestion, mais ce qu'on peut considérer dans l'Occident, un pays où on a un régime qui généralement est plus libre au niveau des individus, c'est très heureux de constater. Ben, de toute façon, on en a parlé régulièrement, là, si on avait un commissaire à la vie privée, autant fédéral que provincial, qui avait un peu de mordant, j'aurais énormément moins de difficulté à accepter l'idée qu'on ait un tracking pendant un temps défini pour les besoins de santé civile, de santé publique, excusez. Et de là, après ça, une fois que c'est terminé, j'aurais garanti que les données soient détruites, j'aurais garanti qu'ils ne seraient pas utilisés à d'autres choses, et j'aurais garanti que je ne serais plus traqué par ces 10 organisations-là après. C'est qu'en général, c'est là où les épouvantails sont généralement soulevés rapidement. C'est que les organisations, autant privées que publiques, ont tendance à avoir un peu de difficulté à lâcher prise de cette information-là une fois qu'ils l'ont dans les mains. Donc, c'est intéressant.
Et qu'est-ce qu'il y a aussi qui fait précipiter les gouvernements de changer leur façon de voir, c'est qu'ils croyaient que les gens allaient embarquer deux pieds joints à l'utilisation puis à la participation de donner des données. Puis là-dessus, en Israël, là, malgré un bon nombre de personnes qui l'ont downloadé, seulement 17% de la population l'ont téléchargé, mais que ce n'était pas un échantillon assez représentatif pour dire « Hey, c'est certain que c'est ça qu'il nous faut. » Fait que on a encore comme citoyen un mot à dire, je crois. Puis il faut garder cette démocratie quand même vivante de cette façon-là. Mais il reste que pas mal tous les pays commencent à avoir adopté cette façon-là. Voyons, puis on a vu aussi comment ce que Apple et Google veulent l'implanter direct dans le système d'exploitation. Version 13.5 d'iOS, justement, cette semaine, c'est un bêta pour amener la capacité de traquage COVID.
Protocole, c'est l'itération 1.1 du petit protocole ensemble. Puis là, je vais lancer un pavé de la mort. Je pense qu'on devrait faire un épisode spécial sur ces affaires-là, justement pour en parler en profondeur, autant comme idée. Tu mentionnes ce genre de choses-là. Moi, j'ai eu beaucoup d'informations dernièrement sur ce que Apple et Google ont développé. Je vais commencer à avoir une connaissance plus approfondie de ça. Et que je pense qu'on pourra en discuter dans un épisode spécial à ce sujet-là, parce que c'est super intéressant. Puis j'ai eu d'ailleurs cette semaine Schneier qui a dit que c'était juste de la merde, toutes ces affaires-là, ça servait strictement à rien. Donc, ça va être intéressant de débattre. On va faire un panel spécial, quitte à ce que ce soit même un panel live, parce que je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'interaction en plus pour réalimenter cette discussion-là, parce que c'est dans l'intérêt de tous d'alimenter cette discussion-là.
Puis justement que les gens posent les bonnes questions pour comprendre les enjeux, comprendre ce que ça implique, là, ça va être fantastique.
Oui. Bon, on va basculer à autre nouvelle, de toute façon, fait qu'on va en profiter dans un épisode spécial pour en parler.
Absolument.
Dans ce cas-ci, ben là, l'autre nouvelle que tu apportes, c'est du spear phishing. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup de spear phishing, c'est-à-dire de l'hameçonnage ciblé, c'est-à-dire des courriels ultra bien développés pour réussir à tromper un haut dirigeant d'une organisation à faire des actions. Et dans ce cas-ci, cet article-là, on mentionne qu'il y a eu plus que 150 hauts dirigeants qui ont été attrapés dans une campagne de cette nature-là.
Et ça, c'est dans des pays, non pas du tiers-monde, mais Canada, US, Allemagne, Grande-Bretagne, l'Allemagne, Hong Kong, Singapour, donc des puissances économiques quand même assez significatives. Et que dans ces pays-là, c'est d'aller mettre la main justement sur le haut de l'organisation. La proportion qui ont été attaqués, qui ont pu détecter ce groupe-là, c'est environ 50%, c'est des services financiers. Ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission, que les malfaisants s'en prennent pour avoir toujours un dollar de plus. Après ça, c'était l'immobilier, surprenamment, à 7,69%. Le côté légal, qui a souvent un rapport avec le service financier, la consultation, la manufacturation, l'énergie, la distribution et le commerce au détail, les TI à l'avant-dernier plan, vraiment à 2,56%. Puis après ça, tous les autres, on peut penser, bien 14,74%. Fait que c'est quand même assez intéressant de voir la répartition. Et quand on regarde la carte au complet sur les 156 qui ont été interpellés, ben en haut lieu, c'est les États-Unis. Ça, il n'y a rien de surprenant là. Et en second lieu, la Grande-Bretagne et le Canada, et avec la Hollande au deuxième rang, puis en troisième rang, c'est le Canada, avec 11 têtes dirigeantes qui ont été sollicitées. Et comme tu as dit, Nick, le spear phishing, c'est facile à produire quand tu connais ton ta cible. Donc, il y a toujours une phase de reconnaissance qui est à faire pour déterminer la cible, c'est qui. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle aime, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il vit, toutes les dépendances qui vont avec. Et après ça, développe un vecteur d'attaque avec lequel il y a telle familiarité que ça va être à s'y méprendre et la victime va tomber dans le piège. Et ça, le premier terrain avec lequel est cultivé ces informations-là, bien, c'est les médias sociaux. Souvent, les dirigeants d'entreprises publiques, par obligation, sont très présents dans le vie, c'est-à-dire professionnel, est présent sur les médias sociaux, quels qu'ils soient. Puis à ce moment-là, ça donne un avantage justement aux malfaisants. Si la personne n'est pas consciencieuse de son empreinte des médias sociaux, ben à ce moment-là, ça déborde dans ce domaine, dans le média social, et davantage de précision sur sa vie publique est là. Et ça, souvent, va être couplé avec une intrusion dans la compagnie. Et qu'ils vont être capables de documenter à l'intérieur comment ça se passe. Mener à la fraude du président, ça veut dire qu'ils vont connaître les correspondances, les façons de correspondre, comment, les tournures de phrases, tout ça mis ensemble, fait en sorte que ça va faire à ce moment-là une attaque ciblée. Puis ce que je trouve drôle, c'est que Nick, ils ont juste utilisé le terme phishing alors qu'ils s'attaquent à des têtes dirigeantes d'entreprise. Et ça, c'est du whaling. Parce que là, tu t'attaques aux gros poissons de l'organisation et non pas juste à mid-level manager ou d'autres intermédiaires comme ça dans l'organisation. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis ça se promenait à travers du partage de documents Microsoft, là, selon l'explication technique qui a suivi. Fait que c'est encore une fois, parce que Office 365, on ne se cachera pas, c'est omniprésent partout dans les entreprises. Fait que ça devient encore là une façon très facile de comprendre la vulnérabilité d'O365, puis après ça, l'exploiter parce que les gens, encore là, c'est à s'y méprendre comment est-ce que les gens ont de la difficulté à maîtriser l'O365. Déjà là, la suite Office classique sur le desktop était quand même lourde à apprendre. Puis là, l'apprentissage de O365, ben j'en connais pas gros qui ont reçu des cours formels et donc ils apprennent sur le tas. Pour être capable de faire quelque chose qui a du sens.
Tout à fait. Puis de toute façon, il y a deux choses que j'aimerais rajouter par rapport à ça. Un, la première, puis si je reprends l'exemple des artistes qui ont une signature d'autographe et ont une signature pour leur chèque. Donc, ils ont deux personnalités sous lesquelles ils vivent, la personnalité publique et leur personnalité privée. Ça serait important que les hauts dirigeants comprennent cette distinction-là entre leur personnalité publique et leur personnalité privée. Et que celle-ci ait suffisamment de différence entre un et l'autre pour pouvoir aider les différentes personnes à aiguiller là-dedans. Ça, c'est une chose. La deuxième, O365, Office 365. Ça prend des habiletés particulières pour sécuriser ça. Ça se sécurise. Puis Microsoft offre des outils fantastiques pour réussir à sécuriser ça et offre des outils fantastiques pour se protéger contre la fraude du président ou du whaling ou ainsi de suite. Par contre, en tant que professionnel de sécurité, il faut les maîtriser, il faut les utiliser, il faut aller à fond là-dedans. Et ça, c'est plus compliqué. Il faut réfléchir, ça demande des efforts. Et, oh oui, il faut faire des efforts, ça fait mal. Mais il faut faire des efforts en tant que professionnel de sécurité, puis on a la double difficulté. Dans ce cas-ci, comme on a mentionné précédemment dans l'épisode, beaucoup de gens en cybersécurité ont été basculés en TI. Donc, on coupe des capacités opérationnelles sécurité de surveiller, puis d'aller surveiller dans les journaux, d'aller surveiller dans les actions, d'aller surveiller dans ce genre de choses-là. Puis informez-vous au niveau de Microsoft, ils sont super sweet pour vous aider à sécuriser vos environnements. Puis justement, vous évitez de tomber dans ces pièges-là. Parce que les malveillants, eux autres, ont compris, ça fait longtemps que s'il y a un site autre santé, puis j'en ai vu plusieurs, des faux SharePoint, des fausses affaires comme ça, sont fantastiques. Ils savent comment utiliser l'info nuagique eux autres. Donc, s'il vous plaît, faites la même chose. Informez-vous comme les malveillants. Steve?
C'est de la base. Encore une fois, c'est juste la base. Et quand que cette base-là n'est pas adressée, bien, ça découle partout. Et cette base-là, c'est une base individuelle. Et si on la maîtrise individuelle, on peut l'amener dans le milieu de travail et compléter la posture de défense du milieu de travail parce qu'on ne devient pas le maillon faible de la sécurité de l'entreprise.
Explorez, soyez curieux, s'il vous plaît. Soyez curieux. Mais c'est très agréable. Perso, j'ai eu à jouer dans ces affaires-là. Puis c'est pour ça que je suis capable de parler que les outils offerts par Microsoft. Là, actuellement, c'est avec Microsoft, mais Amazon, c'est la même chose. Google, c'est la même chose. Ils ont tous super des outils. Utilisez-les. Parce qu'eux autres, ils veulent vous protéger. Fait que, tu sais, utilisez-les. On va basculer à la même suivante avant de continuer à bouclier canadien de ACEI, CIRA, en anglais.
Oui, l'Association canadienne qui veille à la structure Internet que l'on a de chacun chez nous, veut dire, c'est moi, je trouve que c'est la révélation de l'année là-dessus, Nick, d'être capable d'avoir un service un peu à la. Comment on dirait donc ça? À Cloudflare, bon. À la Cloudflare. Donc, l'Autorité canadienne des renseignements et des enregistrements Internet. Autrement dit, quand quelqu'un se crée un autre domaine avec .ca, c'est l'autorité qui gère justement qui a enregistré un .ca, valider que la personne réside bien en sol canadien pour être capable de l'utiliser, en tout cas avec la donnée à distance qu'ils peuvent avoir, mais que là, ils ont fait en sorte que justement, ils ont créé un service DNS à la Cloudflare pour être capable de filtrer les menaces, filtrer pour les familles, le porn, le gambling, tout ce qui est désagréable pour la famille, et gratuitement l'offrir à tout le monde. Et ça, vous verrez dans les show notes, allez chercher ça, c'est très simple. Vous avez les explications comment configurer ça sur tous les appareils, y compris votre routeur domestique, si vous en avez un encore. Et même à ça, si vous avez celui de votre compagnie télécom, vous êtes en mesure de configurer et changer le DNS là-dessus, permettant d'avoir des filtrage quand même très simple. Et ces filtrages-là, ça vous prévient. Vous pouvez juste filtrer contre le malware. Et la façon que ça fonctionne, c'est que l'OCIE, pardon, va intercepter toutes les requêtes DNS qui vont vers l'extérieur. Eux, ils vont filtrer ces requêtes DNS-là. Et si c'est identifié malicieux parce que ça vient d'un malware qui est installé dans vos ordis, il va à ce moment-là canceller. Il va faire un TCP reset, tu le feras probablement. Pour qu'annuler la demande de la requête, justement, d'aller se faire résoudre l'autre côté, donc sur l'espace public. Très, très, très bonne prévention, je vous le dis tout de suite, là, ça ne coûte rien. Moi, j'ai opté pour la version payante qui permet de faire plus de configurations. Aux États-Unis, il y avait Cisco OpenDNS qui a commencé ça il y a une couple d'années. OpenDNS qui était avant tout seul, qui a été acheté par Cisco pour 20$ par année, mais ça, c'était Popularware. Autrement dit, pour être capable de programmer les règles chez OpenDNS, bien là, c'était n'importe qui dans la communauté pouvait programmer aussi. Si pour quelqu'un, Playboy.com était un site d'entertainment et non un site pornographique ou d'adulte, ben à ce moment-là, il y avait une brèche où l'entertainment était peut-être des fois catégorisé plus haut que pour adultes. Donc, ça passait. Et c'est là que ça donnait des lieux à des débats publics. Mais c'était mieux que rien parce qu'eux autres aussi faisaient le Cisco Talos, c'est quand même une bonne base de recherche. Ont complété justement la posture de OpenDNS pour être capable d'avoir une approche très sécuritaire. Mais avec le temps, j'ai vu que ça se dégradait par ce Popularware-là. Et je vois présentement, je m'en sers depuis 3 mois maintenant, de ce firewall-là, de D-Zone Firewall de l'ACEI, et ça donne des très bons résultats. C'est fiable, c'est très rapide, parce que j'ai eu des problèmes aussi avec Cloudflare en parallèle, et Cloudflare, il interprète des choses qu'à nos yeux canadiens, eux autres aux États-Unis, c'est différent. Fait que de cette manière-là, j'ai switché, parce que là, j'avais des timeouts sur un paquet d'accès à de l'information et tout. Fait que là, c'est un peu plus transparent et je peux configurer moi-même mes filtrages, un peu comme je faisais quand j'avais WebSense. Là, c'est quand même assez complet de cette façon-là. Ça me fait penser à WebSense, la façon que c'est structuré même. Et ce sont là une première couche de défense tout en ayant aussi l'antivirus sur vos appareils. Ça va vous aider à avoir un meilleur temps et un meilleur agrément à travailler chez vous avec la technologie, je crois.
Je suis entièrement d'accord. C'est tous efforts qui nous permettent collectivement d'être mieux protégés. Je suis ultra. Je n'ai pas essayé ça. J'ai eu les courriels parce que j'ai un nom de domaine.ca aussi. Fait que j'ai pas été jusqu'à essayer ces services-là parce que j'ai d'autres mesures. Mais plus qu'on en a de mesures, mieux c'est. Fait que je vais aller faire un tour sur ce genre de choses-là.
C'est gratis?
Ben, tu as pris la version payante.
Non, mais les autres, c'est-à-dire, c'est gratuit. Là. Tu veux installer la protection de la vie privée, là, tu peux le faire. Tu as trois niveaux, privé, protégé et famille. Famille va bloquer le porn, puis tu mets tes DNS à 149.112.121.30 et 149.112.122.30. Puis tu as même les IPv6 à travers de ça. Sur les seuls, ils ont commencé à se servir de ça. Ouais. Fait que là, tout de suite, porn est filtré à partir de là. Protéger, ça veut dire que ça va juste protéger contre le malware dans ce cas-là. Puis privé, ben ça va faire en sorte, ça va faire HTTPS over DNS. Donc, ça va protéger, ça va minimiser les pillages que peut faire le provider sur tes requêtes DNS. Alors que si celles qui vont chez le fournisseur d'accès Internet, ben ils ont toujours cette possibilité de lire en clair qu'est-ce que vous demandez pour aller où et de cette façon-là. Ça réduit un peu votre vie privée. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça peut être des plus.
Je suis exceptionnel, j'ai mes propres DNS à la maison. Fait que, ça, non, mais j'ai d'autres équipements. Là. Mes routeurs sans fil s'alimentent sur Google pour la navigation web. Ouais. Et j'ai d'ailleurs ces temps-ci des alertes sur des drôles de sites, pourtant qui ont l'air légitimes. Fait que je ne sais pas ce qui se passe sur les internets. J'ai l'impression que des sites légitimes qui se font hijacker d'une façon ou d'une autre, en tout cas, du moins, les IP sont. Commencent à être reconnus comme étant malicieux, puis ça fait deux ou trois sites commerciaux qui, pour moi, en apparence, seraient légitimes, qui ont été bloqués par mon routeur. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Fait que ça ramène le fait que soyez vigilants parce qu'il y a plein de gens qui manipulent tout et n'importe quoi. Ces temps-ci, c'est assez particulier.
Ça serait-tu du DNS poisoné?
Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps encore d'analyser. Constant, j'ai beaucoup de temps au travail. Je n'ai pas eu le temps de regarder dans mon contexte un peu plus perso qu'est-ce qui se passait, mais je devrais y mettre du temps parce que parfois, je règle ces problèmes-là. Ça m'intrigue énormément. Puis c'est toujours les mêmes adresses IP qui reviennent sur plusieurs sites distincts. Fait que ça se pourrait que soit j'ai un proxy quelque part qui apparaît ou il y a quelque chose qui apparaît. Ou c'est même ces sites-là, par hasard, sont sur le même hébergeur, là, ce qui est fort possible aussi, et que ce dit hébergeur-là soit lui-même compromis. Fait que, donc, maintenant, j'ai un minimum d'enquête à faire perso là, sur ce genre de choses avant de conclure, mais j'utilise plusieurs structures comme ça, mais je vais aller voir celle-là. Je ne m'étais pas attendu à ce que nous avions des services gratuits qui nous étaient proposés. Probablement que c'est déjà une avancée importante sur beaucoup, beaucoup de choses, puis c'est canadien, on va encourager aussi là, sur ce genre de choses-là. Et finissons avec la dernière nouvelle qui est, dans ce cas-ci, on en parle beaucoup sur les services de vidéoconférence offerts par Google, Microsoft, WebEx et ainsi de suite. Malgré la débâcle très importante de Zoom, ces services-là ne sont pas exempts de problèmes. Je sais que certains ou la plupart de ceux-ci utilisent WebRTC comme protocole en dessous, mais malgré ça, il y a quand même des préoccupations à avoir parce que puis là, je vais peut-être dévoiler des punchs sur d'autres choses. On a plusieurs URL dans les show notes qui en parlent. Quand on enregistre, c'est une conférence, par exemple, on décide d'enregistrer. Puis ça, c'est important que les gens le sachent. Quand on appuie sur le bouton enregistrer, ça vient créer un participant invisible qui, lui, monitore la conférence. Puis c'est comme ça que tous les systèmes fonctionnent. C'est pas parce que les communications passent par leur serveur, mais ils rajoutent quelqu'un. Qui vient écouter notre chose. Et pour faire une parenthèse par rapport à nos structures d'enregistrement de podcast, on utilisait Jitsi. Et quand on a activé l'enregistrement, on avait toujours des problèmes parce que l'enregistreur se joignait à notre conférence et faisait tout cracher par la suite. Puis j'ai essayé de crier, puis ça faisait sérieusement cracher. J'ai eu des épisodes terribles à corriger par rapport à ça. Fait qu'il y a ces éléments-là, mais Steve va en parler davantage parce que c'est lui qui a amené l'idée. Moi, j'ai amené des éléments connexes à ça, puis on discutera.
Et l'idée est ramenée d'en parler encore parce que là, on a plusieurs organisations depuis les deux dernières semaines qui en ont fait des études élaborées, des évaluations techniques pour être capable de comprendre qu'il n'y en a pas une de ces plateformes-là qui est parfaite. C'est normal. Tout ce qui est web en partant, déjà là, ça amène beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de problématiques. Mais par contre, ça s'est amélioré beaucoup là, parce que la compétitivité, finalement, est là, fantastique. Fait que là, il améliore le produit là, de semaine en semaine. Mais en passant une parenthèse pour Zoom, version 5 est sortie depuis lundi dernier. Il y a un petit cadenas qui montre que maintenant les conversations sont encryptées. Wow! Mais je n'ai pas fini de me faire des tests, moi aussi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui vont faire des tests là-dessus. Mais il faut être capable de comprendre s'ils sont au rendez-vous de ce qu'ils ont promis. Fait que ça va être intéressant à suivre parce que là, le Parlement canadien, il délibère sur la place publique à partir de Zoom. Fait que c'est intéressant de comprendre.
Mais dans l'article, ils disent, dans l'article du gouvernement de la Chambre des communes, ils disent qu'on a une version spéciale de Zoom. Ils n'ont pas la version standard que les communes et mortels ont. Fait que ça, je suis assez perplexe par rapport à cette information-là.
Il se vend une appliance virtuelle que tu peux installer dans ton réseau à l'interne, que tu vas gérer en tout et partout les rendez-vous, autrement dit, la préparation des conférences, etc. Mais il y a toujours un lien qui se fait avec Zoom sur l'externe. Pour être capable de synchroniser un paquet de petits détails. Fait que c'est ça que j'ai pas fini de documenter, mais que présentement, ils sont comme ça. Donc, ils se disent, en tout cas, ils sont backés par le Centre de sécurité des télécommunications, qu'eux autres, techniquement, ils ont dit, on l'a pas évalué, on le recommande pas, mais oups, la Chambre des communes s'en sert. Ils sont là pour le backer, OK, ils vont le faire, mais je sais pas s'ils vont être, ils vont l'évaluer comme qu'il se doit et le prouver comme il se doit selon les meilleures pratiques techniques. Allez, go. Revenons à toutes les autres plateformes qui sont devant nous. Ben c'est là que Teams, WebEx et toutes les autres comme ça, là, Google Meet, ils vont tout avoir leurs particularités. Le point là-dedans que je voulais apporter, c'est que prenez le temps d'aller lire dans ce rapport-là. Qu'est-ce qui sont des meilleures pratiques pour utiliser une plateforme de vidéoconférence? Là-dessus, je veux dire, j'ai fait venir par mes connaissances chez Cisco les documents techniques. Abracadabrant, prouvant que Cisco WebEx offre la meilleure sécurité, etc. J'y crois.
Et d'ailleurs, parce que tu chiales beaucoup sur l'interface de WebEx, Cisco a amélioré son système depuis le dernier mois. Là. Ils ont dû t'écouter parce que ce qu'il y avait un mois puis ce qu'on a maintenant comme système WebEx, c'est un univers de différence puis il est beaucoup plus agréable à utiliser. Faisons ça comme ça.
Oui, bien dit. Puis oui, effectivement, j'en étais un qui, écoute, là, parce que j'arrive de l'univers Cisco comme formateur et tout, j'ai débarqué de WebEx parce que c'était de la crap. Je l'ai dit à quelques-uns de mes collègues chez Cisco, justement, puis ils viennent, moi, mais c'est ça. Ton témoignage est bon et valide pour comprendre, justement, qu'ils ont amélioré des choses, tant mieux. Alors que Zoom, ben eux autres aussi, c'est à évaluer s'ils sont au rendez-vous. Mais il reste si fondamentalement, donc, voyez les évaluations et les agences de sécurité américaine, le DHS, pour juste pas nommer le DHS, donc, puis le CISA et le NSA, ont sorti quand même des beaux documents que Nick a mis dans les show notes, qui complètent la posture de sécurité, comment comprendre la posture de sécurité de ces applications-là. C'est quand même des documents intéressants, encore là, à prendre connaissance pour voir qu'est-ce qu'on doit évaluer et comment est-ce qu'on doit comprendre qu'ils rencontrent les normes les plus simples ou les plus strictes. Fait, là-dessus, ça va vous aiguiller à quel logiciel prendre, quelle plateforme considérer pour justement vous donner le bon feedback et comprendre que ça va aller dans la meilleure des possibilités. Parce que sinon, si vous y allez juste par tâtonnement et vous parlez de choses vraiment importantes là, dans votre conférence, ben c'est là que vous exposez peut-être à perdre la propriété intellectuelle. Ça revient toujours à ça. Faire des 5 à 7 virtuels, vous pouvez prendre n'importe quoi, ben vous dites n'importe quoi là-dedans, là, c'est pas grave. Mais là, moi, j'y vois toujours quelque chose de grave parce qu'ils sont capables de documenter qui était là, combien de temps, à partir de où, etc. Donc, il y a des éléments stratégiques à capter pareil. Mais encore là, fondamentalement, si on s'y arrête, je veux dire, Facebook en connaît sur nous, Google en connaît pas mal. Il y a toujours une organisation qui va en connaître sur nous, c'est vrai, mais en minimisant, s'ils sont pouvoir se poser de le savoir, ben ça va aider à ce que on garde notre vie privée un peu plus longtemps.
Effectivement, c'est oui. Absolument, puis c'est va être très intéressant. Puis à la lumière de ça, je pense qu'on devoir tenir un épisode spécial sur ça parce que c'est quand même un sujet très complexe, très vaste. Ces études-là qu'on va mettre, on a mis dans les show notes sont très intéressantes parce qu'entre autres, celle de moi, j'ai présenté celle de Mozilla puis celle un peu de la défense. Celle de Mozilla, c'est chacun des systèmes. Il explique de façon très détaillée si c'est vraiment bout en bout, s'ils sont capables d'intercepter, s'ils sont capables de tout faire. Et ça va remettre un peu les choses, les pendules à l'heure sur beaucoup de systèmes, sur beaucoup d'informations, parce que là, on vit, tout le monde se garoche, on est pressé, on prend pas toujours la meilleure décision. Ces grilles-là sont intéressantes, mais ces grilles-là, à leur face même aussi, il faut les remettre en contexte aussi. Puis je pense qu'on va devoir vraiment aborder de façon beaucoup plus poussée ça, et spécifiquement ça, c'est-à-dire passer une heure à parler de ce genre de choses-là, parce que juste en parler pendant un petit 15 minutes, c'est peut-être pas suffisant pour toute la portée de ce que ça a, puis ça va peut-être nous forcer aussi, en tant que tous les collaborateurs du podcast, à se positionner et lire en profondeur ce genre de choses-là, parce qu'on est tous contraints. Là, Steve arrive d'un numéro Cisco. J'ai exploré plusieurs plateformes, entre autres pour le podcast. Zoom, est-ce que Zoom est vraiment, en version 5, à respecter l'ensemble de sa promesse ou il y a encore des faiblesses dans cette promesse-là? Les informations que j'ai sont contradictoires. Il faudra des recherches. Steve va en faire également aussi des recherches de son côté. Fait que je pense qu'on va être capable de vous présenter, en tout cas d'organiser un épisode spécial à ce sujet-là. Puis là, Steve est concentré à rajouter des éléments dans les show notes. Fait que sur ça, moi, je complète pas mal ce qu'on a à dire sur cette épisode-ci. On a quand même passé encore un énorme moment à parler de plein de choses super intéressantes. Puis on a débordé encore fois mille par rapport à ce qu'on avait à dire. Donc, moi, ça complète, Steve.
Ça complète aussi. J'ai rajouté, Nick, pendant que tu jasais, effectivement, la deuxième partie du document du NSA. Parce que on parlait tantôt d'une version courte et une version longue. La version longue, c'est « Selecting and safely using collaboration services for telework ». Et ça donne vraiment toutes les « nuts and bolts ». Et la partie courte, ben, c'est un tableau explicatif qui suit là-dedans. Sur comment faire. Fait que c'est toute cette documentation-là qui va vous éclairer, je suis pas mal certain. Puis je vais essayer de trouver pareil des versions franco parce que le centre de cybersécurité, ils ont de la misère. Là. Ils n'ont pas généré beaucoup de documentation bilingue. Fait que donc, c'est pour ça qu'on présente des versions américaines et ailleurs dans le monde parce qu'ils sont un peu plus proactifs. Et je l'ai noté aussi dans les dernières semaines qu'ils ont encore le cycle de réflexion de 48 heures avant de produire de l'information importante, dont entre autres. La faiblesse qui est arrivée avec le firewall Sophos, ben, ça a pris 48 heures de produire le même avis que tout le monde a diffusé dans le monde dans quelques heures. T'sais. Fait que oui, il m'a bitché encore contre ça, mais ça peut s'améliorer, j'aimerais bien ça. Puis je travaille dans les coulisses pour que ça s'améliore justement. Ça va être une belle affaire à suivre.
T'sais. Tout à fait. Puis de toute façon, il faut considérer que COVID a changé un peu beaucoup de choses. Ça a changé les choses dans mon travail quotidien. Ça devra aussi changer dans ces organisations-là. Comment ils approchent la situation, puis ben oui, je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis.
C'est tout.
À plus.
Bonne soirée.